Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Ben, qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@commercial.gmail.com.
Une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante.
Hello.
On est en mode distanciation sociale, vous allez le voir pendant le podcast. On a réouvert le studio. Premier podcast dans le studio qui sort.
Boom.
C'est vraiment fucking excitant, man. T'es-tu excité?
Ah, ça fait du bien de revenir ici, là.
Ouais.
On se sent bien ici, man, c'est le fun. Puis c'est plus le fun de parler avec quelqu'un dans le blanc des yeux que par Zoom.
Ouais, vraiment. N'ayez crainte. Gang, on prend toutes les mesures de distanciation sociale possible. Les petits puffs ici qu'on utilise pour nos micros sont désinfectés après chaque invité. On lave la table après chaque invité. Jamais plus que 4 personnes dans le studio. Puis on garde nos distances. On n'est jamais plus que 3 par podcast. On a décidé de mettre une personne au bout de la table, 2 personnes comme ça. Donc, il n'y a aucun problème de sanité au Studio SF. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Sinon, Dom, notre premier invité dans le Studio SF depuis la réouverture.
Oui, notre premier invité aujourd'hui, c'est Webster. C'est important pour nous de parler avec lui parce qu'en ce moment, il se passe des choses dans le monde qui sont importantes, qui sont graves, qui sont difficiles. Puis on ne pouvait pas ne pas en parler. On ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Je pense que c'est quand on a une tribune, je pense qu'on a une responsabilité de quand il y a des choses importantes comme ça, de au meilleur de nos capacités, de nos connaissances, les aborder. Puis, quelle meilleure personne pour aborder ces problématiques-là que Webster, un gars fascinant, un rappeur, un historien, un conférencier, un gars qui connaît l'histoire noire, l'histoire en général, l'histoire de l'esclavagisme sur le bout de ses doigts, un gars qui a vécu puis qui vit le racisme encore aujourd'hui, le profilage qui arrive au Québec encore aujourd'hui. C'était une espèce de classe de maître de incroyable. C'était fascinant, un gars avec tellement de savoir puis une belle analyse de tout ça. C'était vraiment un privilège de lui parler puis on est super content de l'avoir reçu.
Tout à fait. Une des choses que j'ai dites, en fait, la seule chose que j'ai dite par rapport aux événements qui se passent en ce moment aux États-Unis sur mes réseaux dans les derniers jours, c'était de dire qu'il y avait des voix qui s'élevaient en ce moment puis il fallait les écouter. Webster, c'est une de ces voix-là. C'est une personne qui a un savoir infini, pratiquement, puis que tout le monde doit écouter parce que dans cette conversation-là, moi, j'ai appris énormément.
C'était un podcast où c'était l'occasion de justement de poser des questions puis après ça, écouter.
Ouais, exactement. Exactement. Écoutez, là, on va avoir plusieurs podcasts qu'on enregistre en banque cette semaine. Si vous voulez y avoir accès en primeur, vous pouvez vous diriger vers notre page Patreon. On a un podcast avec Jay Dutemple qui va être sur la page Patreon très prochainement. Si Nicole l'a déjà mis, même, on ne sait pas s'il va travailler ce soir puis il va le mettre là. il fait signe que non. Peut-être qu'il ne sera pas en ligne demain matin, mais il va être quand même en ligne prochainement. Donc, il va y avoir des podcasts sur la page Patreon qui vont être là en avance, en primeur. C'est la meilleure façon de nous encourager. Il y a du contenu là-dessus. Dom et moi, on fait des podcasts exclusifs. Sinon, partagez dans les commentaires. Laissez-nous un rating. Essayez de participer à la discussion. On aime ça, entendre ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement
sensible.
Donc, faites-le dans le plus grand respect possible. Puis, évidemment, Parlez pas de choses que vous connaissez pas. Mm.
Puis tu sais, nous, on le fait avec les meilleures intentions là-dedans. Là,
tout à fait.
Puis on est vraiment attristé par, par le meurtre de George Floyd. Puis
par la situation des Noirs depuis longtemps.
Ouais, puis on veut juste essayer de faire la meilleure chose sans savoir exactement quoi faire, mais on. Bref, voici...
voici notre conversation, puis j'espère qu'elle va vous apporter autant qu'elle nous apporte à nous. Yeah. Merci beaucoup. All right. Salut.
Salut.
Merci d'être là.
Ben, c'est un plaisir. Merci de me recevoir.
Dernière minute. On aime ça comme ça.
Ben oui, ben écoute, on est flexible.
c'est ça. Aujourd'hui, t'es en demande beaucoup.
Ouais.
J'imagine que en fait, ton expertise puis ta connaissance de l'histoire est on ne peut plus importante dans les moments qu'on vit en ce moment. Là.
Ouais, ben je pense que l'histoire permet de comprendre. Qu'est-ce qui se passe,
ouais.
Puis que tout ce qui se passe en ce moment est indissociable de l'histoire des États-Unis, ouais, mais des Amériques, de l'Europe, de l'Afrique, du monde atlantique, en fait. Et on peut pas dégager ça de la trame historique.
C'est difficile, en tant que Québécois, de voir cette grande picture-là, mm-hmm. cette grande image-là de l'histoire at large, puis d'essayer de mieux la saisir.
Oui, et c'est ça que je trouve particulier parce que on fait partie de cette histoire-là aussi.
Mm-hmm. Ouais.
Tu sais, je dis, on a eu de l'esclavage ici. Les esclaves qui venaient ici étaient... Il y avait des Autochtones qui venaient de ce qui est maintenant le Midwest américain. Puis il y avait des Noirs aussi qui venaient des Antilles, qui venaient des 13 colonies et certains qui sont nés en Afrique. Donc, je dis, on faisait partie de ce réseau-là. Je veux dire, le rhum qu'on buvait ici, le sucre qu'on mangeait ici... venait des Antilles, était cultivé par les esclaves. Tu vois, même dans les années 1800, la morue de mauvaise qualité, qui était pêchée en Gaspésie, était envoyée dans les plantations, dans les Antilles, jusqu'au Brésil. Fait que, tu sais, la morue de bonne qualité est envoyée en Europe, puis pour pouvoir passer la mauvaise qualité, on l'envoyait pour nourrir les esclaves, pour qu'ils aient des protéines ou je sais plus trop quel élément est dans le poisson, là.
Oméga 3, j'imagine.
Ouais, c'est ça, exact. Fait que non, cette histoire-là fait partie de notre histoire aussi.
Ouais.
Puis même dans l'histoire récente, si on parle de brutalité policière, mm-hmm. si on parle de gens qui ont été tués, de personnes noires qui ont été tuées, il y en a ici. Les émeutes raciales, il y en a eu ici. On parle de l'émeute à Sir George Williams University, Concordia. C'est-à-dire, il y a des étudiants noirs qui sont rebellés parce qu'il y a des enseignants qui leur donnaient automatiquement des mauvaises notes. Et je veux dire, ça fait partie de notre histoire, mais le problème, c'est que tout ça a été rayé.
Ouais, c'est ça qui se passe.
Mm-hmm.
Parce que c'est beaucoup, justement, l'argumentaire, ou en tout cas, c'est quelque chose qui ressort en ce moment, quand on observe ce qui se passe, puis tu sais, on l'entend ça, tu sais, oui, mais il ne faut pas nécessairement appliquer ce qui se passe aux États-Unis ici. Je pense qu'on peut quand même peut-être s'entendre sur le fait que l'histoire des deux pays est différente, mais il ne faut pas non plus nier ce qui s'est passé ici. Puis toi, Tu dirais, mettons, la situation au Canada, au Québec versus celle aux États-Unis, c'est quoi la différence? C'est quoi les ressemblances, finalement?
Ben, tu vois, ça dépend de quelle approche on prend. C'est-à-dire, si on parle de l'esclavage, mm-hmm. Aux États-Unis, l'esclavage, c'est un esclavage de plantation, un esclavage économique. Tandis qu'ici, c'est un esclavage domestique. C'est des gens qui étaient dans les maisons, qui servaient des repas, etc., parce qu'on n'avait pas le climat pour avoir des plantations. Mm-hmm. Mais si on avait eu le climat, bien sûr qu'on aurait eu des plans. Mais oui, parce que, je veux dire, les mêmes gens qui venaient ici étaient les mêmes gens qui partaient en Martinique, qui partaient en Guadeloupe, à Haïti. Et donc, on pense toujours que notre histoire est tellement différente. Mais oui, il y a des différences, mais il y a des similitudes aussi dans les mentalités d'époque. Et je dis, regarde juste ce qui se passe avec les Autochtones aussi, les violences policières. Tu sais, on l'a vu à Rouen il y a quelques années envers les femmes autochtones. Je veux dire, mm-hmm. on a nos propres dynamiques de racisme ici. Ouais. Et je veux dire, il faut être conscient que les Amériques ont été construites sur le racisme. Tu sais, ce qui a donné... À partir du moment où des Européens se sont donné le droit de s'installer sur les terres autochtones, qui voyaient ces terres comme étant... libre. Pourtant, il y avait des gens qui habitaient, tu vois. Mais à partir du moment où est-ce qu'ils se sont dit, on peut venir ici parce que ce sont des terres vierges, c'est que à partir de ce moment-là, tu considères ces gens pas comme des humains. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens, ils ont le même droit que le chevreuil dans la forêt, là.
Ouais.
Tu vois? Et donc, nos histoires sont ancrées dans le racisme. Mais le racisme, on l'a extirpé de notre trame historique, que ce soit au Canada, je veux dire, aux États-Unis, c'est plus difficile de l'extirper. Ici, ça a été plus facile de l'extirper parce qu'il y avait une moins grande population noire, entre autres. Et souvent, on pense au racisme blanc-noir, mais il y a le racisme envers les Autochtones aussi, mm-hmm. qui est très présent. Et donc, au final, notre histoire aussi est trempée là-dedans. Je vais vous donner un exemple aussi que je trouve frappant. Tu sais, quand il y a eu la blackface, avec mm-hmm. Justin Trudeau. Ouais. Mm-hmm. Ben, excusez-moi. Alors, on disait, non, c'est pas une histoire québécoise, c'est pas une histoire canadienne, le blackface aux États-Unis. Si vous allez dans les journaux, à partir de 1842 jusqu'à 1900, vous allez dans le Daily Mercury à Québec, vous allez dans le Montreal Herald, il y a des annonces de blackface pratiquement chaque mois. Il y avait des concerts de blackface ici au Théâtre Royal, au Nordheimer, au Music Hall à Québec. Il y avait du blackface pratiquement à chaque mois. Chaque année, on retrouve des instances de gens qui vont salcombe du blackface. Mais pourtant, on nous dit non, mais c'est pas une histoire d'ici. Mm-hmm. Mais la personne qui a composé l'hymne national, Calixa Lavallée, faisait du blackface. aux États-Unis. Elle avait une carrière de blackface aux États-Unis. Et donc, on a une grande myopie historique.
Ouais.
Ici, j'ai quasiment envie de parler d'aveuglement, mais parlons de myopie pour l'instant.
Qu'est-ce qui a contribué à cette myopie-là?
Wow!
Parce que j'imagine que l'histoire est écrite par l'oppresseur
ouais.
tout le temps. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a cette perception-là.
Mm-hmm.
Qui veut pas être dans l'erreur.
Ici, on a, au Canada, je dirais qu'on a l'aspect francophone-anglophone qui est très présent et qui a teinté tout le reste. Et donc, pour ce qui est du Québec, le premier à écrire vraiment une histoire officielle du Canada, à l'époque on appelait ça comme pour tout le Canada, c'est François-Xavier Garneau, qui écrit en 1845-46 « Histoire du Canada ». Mais Garneau, lui, a écrit ça en réaction au rapport Durham, mm-hmm. après les rébellions de 1837-38, où est-ce que Durham dit le peuple canadien-français
n'a pas de culture.
Sans culture, sans mm-hmm. histoire, sans passé, et il faut l'assimiler. C'est ce qu'il dit. Et les gens disent, c'est pas vrai, on a une histoire. Et Garneau s'applique à écrire l'histoire. Et donc, ici, on voit une utilisation de l'histoire afin de remonter la fierté nationale et de se justifier par rapport à une conquête britannique. Et donc, Garneau va écrire, nos ancêtres français n'ont pas cru bon d'avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang. Tu vois? C'est le premier à écrire l'histoire et il écrit, il n'y a pas eu d'esclaves ici. Il n'y a pas eu de noirs ici. Puis les gens vont le reprocher à Garneau.
Puis même en écrivant ça avec la formulation que tu viens d'énoncer, demeure une formulation raciste.
Oui, mais oui, tout à fait.
Même si il enlève l'esclavage de l'équation, ça reste une formulation complètement raciste que oui. de dire on veut garder la pureté de notre sang.
Mais oui, exact. Puis je veux dire, c'était une époque, justement, les années 1800, là, où est-ce que tout était vu à la lumière de la race. On parlait de la race canadienne-française, on parlait de la race britannique, etc. Donc, c'est un moment où est-ce que l'idée de race est extrêmement présente. Et donc, pour lui, ben, il disait, bon, ben, t'as les races britanniques et canadiennes-françaises qui sont des races pures, des races civilisationnelles. Et donc, de dire qu'il y aurait eu des Noirs ici qui se mélangent avec les gens, ben, tout d'un coup, c'est comme si tu viens rabaisser, tu vois?
Mm-hmm.
Je disais, Lionel Groulx, par la suite, avait pratiquement le même discours. Et donc, les grands monuments historiques qui ont contribué à façonner notre histoire et notre identité étaient des racistes ou avaient des approches racistes. Là. Et donc, ce qui fait qu'entre autres que les gens n'ont jamais été intéressés à raconter cette histoire-là. Et ce qui est paradoxal, c'est que les premiers à parler d'esclavage ici sont Jacques Vigé, le premier maire de Montréal, et Louis-Polyte Lafontaine en 1859. Qui écrivent un fascicule qui s'appelle « De l'esclavage en Canada ». Et donc, mais apparemment que ça va se perdre entre les craques, ce fascicule-là, parce que finalement, notre trame narrative collective va se situer au-delà de l'esclavage. C'est-à-dire que on n'est plus dans une dynamique de négation. Tu vois, on n'est plus en train de nier. On est dans le néant. On ne nie pas. On est passé dans l'obscurité totale. On est dans l'oubli. Exactement. Effacé, oublié. Les gens ne savent plus, tu vois. Mm-hmm. Et donc, pour moi, c'est un peu ce qui explique le fait qu'on n'en parle pas.
Juste le fait, tu sais, qu'il y a des erreurs qui soient commises, comme justement, tu sais, il y a une couple d'années, l'histoire le blackface au bye-bye, c'est vraiment un symptôme d'un manque de connaissances historiques. Tu sais, de même pas savoir que cette pratique-là est offensante et pas correcte. C'est n'en jamais avoir entendu parler, tu sais. Puis il y a un problème, une problématique, là, tu sais.
Oui.
Que tu peux te rendre à l'âge adulte sans jamais avoir entendu parler de cette façon de faire-là historique, puis de comment qu'elle est chargée, qu'elle a été vraiment difficile.
Ah, tout à fait. Écoute, je différencie toujours deux choses. La méconnaissance et l'ignorance.
Mm.
Pour moi, la méconnaissance, c'est on méconnaît. C'est-à-dire, on ne connaît pas, mais on a une ouverture à apprendre.
Mm-hmm.
Tandis que l'ignorance, on s'enferme dans l'ignorance. On s'enferme dans nos préjugés, on s'enferme dans nos a priori, sans nécessairement vouloir en sortir. Je veux dire, c'est pas une différenciation académique ou quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça que je vois ça, tu vois. Et donc, pour ce que tu dis, admettons, comme pour le bye-bye, cette méconnaissance-là, il y a effectivement cette méconnaissance qui est souvent couplée par l'ignorance parce que il y a une controverse comme ça qui va arriver. Et là, des gens des communautés noires vont se lever et dire, écoutez, on trouve ça offensant, c'est un problème. Puis qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais vous comprenez pas. Non, 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 mais c'est pas l'intention. Non, mais c'est juste drôle. Puis, tu sais, riez un peu. Puis... Et donc, on veut même nous dire...
On peut plus rire de rien.
Ben, c'est ça, exact. Donc, on veut nous dire comment est-ce qu'on devrait se sentir. Tu vois? On veut nous dire comment est-ce qu'on devrait penser par rapport à des dynamiques qui nous touchent particulièrement. Tu vois? Et moi, c'est ça que je trouve justement offensant dans tout ça. C'est ça que je trouve paternaliste et raciste. Comme, t'as pas le... On tombe dans une hiérarchie du ressenti. C'est-à-dire, ton ressenti ne vaut pas le mien parce que moi, j'ai décidé que ça ne t'offensait pas, que ça ne devrait pas t'offenser. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que ces histoires de blackface qui reviennent d'année en année, là, bon, je ne sais pas s'il va en avoir d'autres. Là, parce que
je crois que c'est là on a fait le tour pas mal.
Ces dernières années, il y en a eu plusieurs. Mais écoutez, si ça revient encore, là, waouh, s'il y a des gens qui ont juste décidé qu'ils ne voulaient pas apprendre.
Ouais.
Là.
ouais. Mais tu vois, tu sais... Qu'il y a une vieille photo de quelqu'un qui a fait ça il y a 25 ans, je me dis, j'ose espérer qu'il a appris depuis. Ouais. Mais si ça arrivait demain matin encore, une nouvelle occasion, là, tu sais, puis pas ressorti du passé, là, je ferais qu'il y ait vraiment des gens qui vivent soit en dessous d'une roche ou qui veulent juste pas voir la vérité.
Oui, tout à fait. Puis écoute, même cette histoire avec Justin Trudeau en particulier, quand c'est sorti, 25 ans plus tard, c'était dans un contexte électoral. Mm-hmm. C'était les élections, puis on voulait nuire
Quelqu'un dormait sur cette photo-là depuis longtemps. Exactement. Là. Il l'avait dans sa poche en attendant. Là.
Exactement. Puis je veux dire, cette journée-là, quand c'est sorti, je pense que j'ai refusé 14 entrevues. J'ai compté, il y a 14 médias qui m'ont écrit pour pouvoir faire une entrevue. J'ai refusé à chaque fois parce que je disais, c'est une magouille, ben pas une magouille, mais c'est un stratagème électoral pour lui nuire. Puis si c'était en dehors du contexte électoral, ben les gens, ça passerait free.
Il n'en parlerait pas vraiment.
Ben c'est ça, c'est comme si à chaque fois que ça arrive, on s'en fout. Mais là, puisque c'est dans un contexte électoral, tout d'un coup, tout le monde est offusqué. Fait que c'est comme, tu sais quoi, laissez faire vos entrevues, arrangez-vous par vous-même. Puis si vous voulez en parler du blackface, on en parlera après les élections.
Ouais.
Mais t'as vu, on n'en a jamais reparlé.
Non, exact, c'est vrai. C'est la dernière fois qu'on en a parlé. C'est probablement à tout le monde en parle quand Justin Trudeau est allé.
Ben, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ce sont des faits historiques, comme je disais un peu plus tôt. Puis c'est des choses qui méritent d'être mentionnées aussi. Mais bon, écoute, chacun a ses intérêts quand il veut les mettre de l'avant. Là. Puis c'est ce qui se passe dans les médias.
Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sens avec le fait que ça prend soit une tragédie ou des événements comme ça pour que le téléphone sonne autant? Comprends ce que je veux dire?
Ouais.
Parce que l'histoire des Noirs, on devrait en parler. On devrait pas avoir une occasion, on devrait pas avoir besoin d'un prétexte pour en parler. Mm-hmm. Puis je veux dire, t'es ici aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, exact, ça fait partie.
On fait partie de ça, mais tu sais, nous, on s'est dit ici... En ce moment, il est arrivé quelque chose d'horrible, puis il se passe quelque chose, puis on peut pas ne pas en parler ici, ça serait se mettre la tête dans le sable. Mm-hmm. Donc, aussi bien en parler avec quelqu'un qui est premièrement informé, puis deuxièmement aussi, premièrement touché par ces problématiques-là. Là. Mm-hmm. Fait que, mais comment tu te sens? Est-ce que tu as un sentiment comme doux amer envers ça? Ou...
Ben oui, parce que je veux dire, cette histoire-là est encore un peu reléguée au rang d'anecdote, si on veut. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on ressort quand justement il y a de la négativité qui se passe, mais on oublie que ça fait partie de l'histoire québécoise et canadienne. Et donc, mm-hmm. c'est toujours l'histoire noire. Mm-hmm. T'sais? Mais c'est notre histoire collective à tout le monde. Cette histoire-là n'existe pas en elle-même, en silo. Mm-hmm. Et donc, oui, je trouve ça plate qu'à chaque fois qu'on décide d'en parler, ben, c'est quand il y a quelque chose de négatif. Et en l'occurrence, ici, on parle d'une personne qui a perdu sa vie. Puis ouais. Plus d'une personne, en fait.
Plus d'une personne, depuis longtemps, depuis plusieurs années.
Exactement. Et donc, oui, je trouve ça frustrant, surtout que tout d'un coup, les gens décident de s'arrêter. Au racisme, puis tout d'un coup décide d'être offusqué du racisme. Ouais. Tant mieux que les gens s'offusquent, mais imaginez-vous, ça prend des pertes de vie ouais. pour mmh. que les gens décident de s'y arrêter. Quand justement, si on s'était arrêté plus tôt,
on n'en serait sûrement pas à ces pertes de vie-là. Là.
Exactement.
J'ai l'impression que cette mort-là, cette tragédie-là, J'ai espoir, j'ai l'impression que c'était celle de trop, malheureusement. Puis qu'on est au début d'un mouvement un peu comme un mouvement qui est là pour durer puis qui va avoir des vrais changements qui vont être là pour rester. Je sais pas si tu sens ça, mais il me semble que justement, des histoires de meurtres comme ça, c'est malheureusement pas le premier. Mais est-ce que tu sens quelque chose de différent cette fois-ci par rapport à la dernière fois?
Ah, je sais pas, j'aimerais ça. Mm-hmm. J'aimerais ça que on puisse réfléchir en tant que société à ces dynamiques-là. Mm-hmm. Je dirais que j'ai pas envie de trop m'avancer rapidement là, ou d'être trop naïf.
De trop mettre d'espoir dans ça. Ouais.
Exactement, parce que je veux dire, souvent les gens vont être fâchés, les gens vont s'offusquer, puis mm-hmm. Deux semaines, trois semaines, un mois plus tard, ça passe entre les craques, ça disparaît. Tu sais. Puis je veux dire, on le voit au nombre de personnes qui sont mortes. Là. Trayvon Martin a été tué, il y a eu beaucoup de mobilisation, puis on en est où?
On en est là aujourd'hui. Ouais.
Exactement, et donc des gens meurent. Je veux dire, quand Tommy Rice a été tué, c'est un enfant qui a été tué. Il n'y avait pas tant de mobilisation que ça non plus, ou du moins, c'est pas resté plus longtemps. Et donc là, est-ce que c'était la foi de trop qui fait que ça va passer à autre chose? Espérons-le. Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer...
Le temps.
Le temps.
Pouvoir de l'oubli.
Exactement. Faut pas sous-estimer la stupidité des gens aussi, tu sais. Puis faut pas sous-estimer la mauvaise foi aussi. Mm-hmm. Parce que faut comprendre que ce sont des dynamiques où il y a des gens avec du pouvoir, ouais. des gens qui sont racistes. Je veux dire, Donald Trump est à la présidence ouais. des États-Unis. Je veux dire, Donald Trump, qui est un raciste, qui a fait ses élections sur une plateforme raciste à moitié voilée,
même pas tant que ça.
C'est ça, exact, de misogynie, de sexisme, de racisme. Et il a été élu. Je veux dire, il y a des gens que ça arrange.
Ouais.
Il y a des gens qui sont à l'aise avec ces dynamiques-là. Tu vois, quand il parle de « Make America Great Again », ben, c'est revenir aux années 50 des États-Unis où est-ce que les Noirs étaient dans les ghettos qui n'avaient pas le droit de voter, où est-ce que les femmes étaient dans les cuisines, puis les homosexuels étaient dans le garde-robe, tu sais? Et donc, pour moi, c'est ça que j'entends. Quand j'entends « Make America Great Again », c'est cette espèce de vision d'un, comme on dit, de « golden age », d'un passé doré qui n'a jamais existé, finalement.
À quelle époque tu fais référence? Parce que moi, j'en vois aucune qui est meilleure.
Oui, c'est
ça, exact. Probablement que lui, c'est carrément... revenons avant qu'il y ait un noir en présidence pendant 8 ans.
Ouais, ben oui.
Probablement que c'est ça qui est sous-entendu dans son Make America Great Again, parce que l'Amérique n'a jamais été aussi great. Là,
puis je pense qu'il faut pas oublier que Donald Trump existe parce qu'il y a eu un Barack Obama.
Ouais.
Je veux dire, Donald Trump est une réaction d'une certaine partie des États-Unis qui ont été choqués de voir un noir à la présidence. Et je veux dire, tout ce mouvement de, qu'on appelle des birthers, c'est-à-dire les gens qui disaient que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, qui était né au Kenya, etc. Je veux dire, ce sont
c'est
des
une invention.
Mais oui, c'est ça, ce sont des réactions racistes au final. Mm. Puis Donald Trump a été un des fers de lance de ce mouvement-là aussi. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le racisme. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer le racisme systémique.
Mm-hmm. Ouais.
Tu vois, des choses dont on a tellement de la difficulté à parler parce que les gens pensent que quand on dit racisme systémique, on veut dire racisme systématique, ouais. qui n'est pas la même chose. Mais il faut en parler. Je veux dire, regarde la pyramide sociale. Si tu prends d'un point de vue économique, plus tu montes la pyramide... plus elle est blanchie.
Ouais.
Je veux dire, si tu regardes dans tous les, dans tous les domaines, il y a des problèmes en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'éducation, en termes de santé, d'un point de vue au niveau de la culture, au niveau des sports. Regardez juste les sports. Prends basket, football. Et ça, je parle des États-Unis, mais je parle d'ici aussi. Hein?
Ouais.
Je veux dire, puis dans tout le monde occidental. Là. Mais prenons le sport, basket, football, baseball. La plupart des joueurs sont quelle couleur? La plupart des managers et plus du monde, des owners, des propriétaires. Ouais, encore,
il n'y a aucun propriétaire qui est noir.
Oui, ou pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Ou s'il y en a, c'est depuis peu. Tu vois? Mm. Et donc, la richesse aux États-Unis, dans le monde occidental, est mal redistribuée. Et ça, ça vient de l'esclavage. Ça vient de ce moment-là. Parce que si tu es esclave, comment est-ce que tu vas acquérir du patrimoine? Tu vois, si t'es esclave, tu peux pas acheter le pain de terre que tu vas léguer à tes enfants, qui vont léguer à leurs enfants, qui peuvent revendre, faire de l'argent, en racheter un autre, etc. C'est comme ça que se construit un patrimoine.
Sur des longues années.
Sur des décennies.
Oui.
Et des décennies.
Si on recule une couple de décennies, on est loin en termes de disparité sociale.
C'est pas en abolissant l'esclavage que les problématiques se règlent du jour au lendemain, les disparités restent. Là.
Ben exactement. Puis ce qu'on dit souvent, c'est que l'esclavage disparaît, mais les mentalités qui permettaient l'esclavage demeurent.
Mm-hmm. Exact.
Et donc, si on regarde dans le cadre des États-Unis, t'as l'esclavage, mais de l'esclavage, on passe à la ségrégation.
Ouais.
Et même si on parlait de patrimoine. Dans les années 1930-40, le gouvernement américain a mis sur pied des associations pour aider les gens à acquérir des propriétés. Et il était stipulé qu'il n'y avait pas d'aide qui pouvait être donnée aux personnes noires. Tu vois, donc, on ne pouvait pas amener des personnes noires dans certains quartiers, on ne pouvait pas les aider à acquérir des propriétés. Donc, encore
c'est
même...
C'est une législation. Là.
Oui, donc, tu vois, 80 ans après l'abolition de l'esclavage, les gens ont encore de la difficulté à acquérir un patrimoine. Et donc, ces disparités-là... Tu sais, regardez, même si on fait juste un calcul rapide, on pense aux États-Unis, on peut penser au reste aussi, mais aux États-Unis, les premiers esclaves dans la colonie britannique arrivent en 1619. L'esclavage dure jusqu'en 1865. Donc, on parle d'un 250 ans autour de... C'est ça. Après ça, on tombe la ségrégation, 1865, au moins jusqu'à 1965. Donc, on parle un siècle de ségrégation. Et donc, 1965...
Ah, maintenant, il nous reste 80 ans.
Ben, moins que c'est ça encore. On parle d'une cinquantaine d'années, là. 55, 60 ans. Et donc, si on met dans la balance, là, 240 ans d'esclavage, 250 ans d'esclavage, 100 ans de ségrégation. Donc, on est à un 350, 360... versus un
60.
Puis ça, je veux dire, ça, en plus, ce calcul-là, c'est si tout allait bien à partir des 60 dernières années, qui n'est pas le cas.
Mm-hmm.
Tu vois? Et donc, il y a une énorme disparité. Et ce sont ces disparités auxquelles il faut s'attaquer. On parle des États-Unis, mais on peut parler du Canada aussi.
Oui, tout à fait.
On peut parler de la présence autochtone aussi. Tu vois, d'une présence qui est ici depuis des millénaires. Mais où est-ce qu'on retrouve dans les gouvernements provinciaux et fédéraux? Où est-ce qu'on retrouve en tête des grandes compagnies, etc.? Où est-ce qu'on retrouve en tant que prof d'université, etc.? Je veux dire, ce racisme systémique s'applique ici aux personnes autochtones, mais aussi aux personnes racisées. Parce que le Canada aussi... j'en parle un peu plus tard, la colonisation, d'un point de vue raciste, mais aussi par la suite, au 20e siècle, il y avait des lois contre l'immigration des personnes noires. Il y avait des lois contre l'immigration des personnes asiatiques. Et donc, on voulait une immigration spécifiquement blanche européenne. Et donc, ce sont des dynamiques qui nous affectent ici aussi au Canada, mais c'est tellement plus réconfortant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Mm-hmm. Comme, regardez, c'est plus apparent, les États-Unis, c'est toujours plus gros. Mm-hmm. Ouais, ce qui se passe aux États-Unis, c'est toujours plus fou. Mais ce sont des dynamiques qui nous affectent ici, au Québec et au Canada.
Ouais. Ici, c'est masqué, puis justement, tu sais, je pense que justement, cette définition-là du racisme ou cette... Le concept de racisme systémique, je pense que c'est ça qui est le fondamental à comprendre. T'sais, exemple, moi, quand j'étais jeune, mes parents ou mes profs au primaire, ils disaient qu'il ne faut pas être raciste. Puis être raciste, t'sais, mettons, tu vas insulter la personne noire ou tu vas... T'sais, c'est des actes grossiers. T'sais, c'est vraiment des actes visibles, faciles à reconnaître.
Ouais.
Puis du moment que tu fais pas ça, ben, t'sais, ah, ben moi, je suis pas raciste, je fais pas ça.
Exact.
Sauf que c'est tellement plus subtil puis insidieux que ça. Puis... Mm-hmm. puis comme on en parlait tantôt, mais PH, puis tu sais, le racisme, c'est pas non plus t'es ou t'es pas racisme, là. C'est toute une espèce de gradation.
Mm-hmm.
Puis il y a tellement de. Des fois, c'est dans l'inconscient, des fois, c'est justement. Toi, personnellement, t'es pas raciste au jour le jour avec les gens autour de toi, mais tu peux participer à un système qui permet ces injustices-là. Puis mm-hmm. c'est ça qu'il faut questionner, puis c'est ça qui est, j'imagine, plus difficile à démanteler. Puis c'est ça que, tu sais, je pense, on est beaucoup en tant que personne blanche à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? C'est où notre rôle là-dedans? Je pense que un des premiers rôles, c'est de réfléchir, c'est d'écouter, c'est d'apprendre sur le sujet, puis connaître sa place là-dedans. Puis après ça, comment qu'on peut faire un changement sans tomber non plus dans le complexe du white savior ou sans devenir paternaliste ou quoi que ce soit. C'est très délicat, c'est très difficile, puis j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question-là, on dirait.
Oui, mais si tu la trouves, je pense qu'il y a bien des gens qui
voudraient la connaître.
Oui, c'est des situations qui sont difficiles, qui sont compliquées. Je pense que de reconnaître déjà ces privilèges-là, c'est une chose. T'sais. Après ça, d'en parler, c'en est une autre. De refuser aussi... le racisme autour. Tu sais, je veux dire, combien de fois, puis je me compte là-dedans, t'entends une joke raciste, puis t'es comme, tu sais, tu l'as juste passé, tu sais, ou islamophobe, ou XY, tu sais. Donc, je pense qu'il faut agir comme ça et mettre des pressions aussi sur nos gouvernements, sur nos organes de presse, de télé, etc., pour qu'il y ait une plus grande représentativité, mais pas seulement à l'écran, parce que ça revient à avoir des sportifs noirs sur le sol, puis des honneurs blancs,
tu sais. Exact, c'est ça.
Et donc, de mettre des pressions pour que la hiérarchie aussi se racise, entre guillemets. Tu sais, que ce soit des réalisateurs, des directeurs, XY, qui proviennent de ces communautés-là. Parce qu'on parle d'afro-descendance, mais je veux dire, on peut parler d'autochtones aussi, c'est important, de présence asiatique, arabe, latino, etc. Je veux dire, il y a un renversement pratiquement total de ce qui se passe en ce moment, du statu quo, en fait. Ouais, renversement du statu quo. Parce que le statu quo profite toujours à quelqu'un.
Exactement.
Il profite toujours à quelqu'un.
S'il y a un opprimé, il y a quelqu'un qui en profite aussi.
Exactement.
Fois.
Puis ce qui est particulier, c'est qu'on en profite parfois sans même s'en douter ou sans même vouloir y penser. Mm-hmm. Je veux dire, les vêtements qu'on porte, là, les vêtements qu'on porte qui sont fabriqués dans des sweatshops, là, c'est facile de passer à d'autres choses. Tu mets tes pantalons puis tu continues ton chemin. Mais c'est une réalité aussi.
Ouais.
Et je veux dire, c'est facile de l'oublier puis de passer à d'autres choses. Puis je m'inclus là-dedans, là, tout à fait. Tu sais. Et donc, il faut prendre conscience de ces différentes dynamiques-là puis agir. Mais c'est une action qui doit être faite au jour le jour.
Ouais.
Tu sais.
Exactement, qui demande énormément de réflexion à chaque petite action qu'on porte.
Ouais.
Je lisais sur Twitter une conversation entre deux économistes qui disaient que eux se sentaient, les économistes et toutes les gens qui gèrent l'économie, qui se sentaient au centre de cette conversation-là. C'est-à-dire que c'était aussi un problème économique de classe sociale qui creusait des fossés énormes entre les classes, puis qui justement séparait les différentes ethnies dans certains secteurs, qui créaient une tension comme ça entre les classes. Comment on sort de ça?
Wow!
C'est une question qui vaut...
qui vaut un prix Nobel en économie, je pense.
Exactement, c'est ça.
Mais non.
Mais quelles sont les pistes en tant que société pour dire, hey, là, ça ne peut pas continuer comme ça? Mm-hmm.
Je pense qu'effectivement, c'est un problème économique, c'est un problème de capitalisme. Mm-hmm. Je pense que c'est un problème de consommation débridée aux dépens de d'autres populations. Et il ne faut pas oublier que, et je reviens à l'esclavage souvent, parce que pour moi, c'est le point d'ancrage de nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vais faire un long détour historique pour y revenir.
Je suis fasciné.
Bon. Mais c'est de l'économie, c'est-à-dire que, avant la traite transatlantique, c'est-à-dire d'aller chercher des Africains pour les amener en esclavage dans les Amériques, l'économie de l'Europe était sensiblement la même qu'un peu partout. C'est-à-dire qu'en Amérique, chez les Autochtones ou les Africains, c'est-à-dire les terres agricoles, les échanges, etc. Donc, on avait l'agriculture, les échanges, etc. Donc, il n'y avait pas de méga plantations en Europe. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a pris des Africains, qu'on a placé sur la terre des Autochtones et qu'on a développé toutes ces terres-là en méga plantations pour faire du sucre, pour faire de l'indigo, pour faire la teinture bleue, pour faire le coton, le tabac, le cacao. Eh bien, ça a propulsé l'Europe. Tout l'argent, l'or et l'argent qui venait des mines d'Amérique du Sud vers l'Espagne. Toutes ces ressources premières qu'on amenait des îles, que ce soit Haïti, Guadeloupe, Bahamas, etc., qu'on amenait vers l'Angleterre, qu'on amenait vers la France, qui contribuaient à une grande partie de l'économie. Et ces marchés-là, de ces colonies, étaient des marchés captifs. C'est-à-dire que la colonie n'a pas le choix d'acheter ses produits finis de la métropole. Donc, admettons, tu es en Nouvelle-France. Tu ne peux pas nécessairement acheter tes choses autre part qu'en France. Mm-hmm. Et tu ne peux pas revendre ta matière première autre part qu'en France. Au rythme où la France le veut. Puis ça, c'est pour toutes les colonies. Ce qui a poussé, entre autres, les 13 colonies à se rebeller. Tu vois, ouais. qui est devenu les États-Unis.
Parce que les redevances aussi étaient exorbitantes, là, je pense.
Oui, ben oui, c'est ça. Je veux dire, la métropole s'arrange comme elle veut parce que l'important, c'est de nourrir la métropole. La colonie sert à nourrir économiquement la métropole. Et donc, on a une Amérique qui est un marché captif de l'Europe. On a une Afrique dont la force humaine est ponctionnée pour cultiver ces matières-là. Et donc, ça a propulsé l'Europe économiquement, technologiquement aussi. Et tu vois, à ce moment-là, les Européens voulaient échanger avec la Chine, le Japon, etc. Mais ils ne voulaient rien savoir parce que les Européens n'avaient rien qui intéressait la Chine et le Japon. Et donc, l'esclavage, etc., ce pillage des ressources a permis une avancée technologique qui, une fois arrivée en Chine, une fois arrivée au Japon, ont juste eu à forcer militairement ces marchés-là pour échanger. Tu vois? Et donc, même toute cette histoire-là du monde atlantique a une incidence jusqu'en Asie, tu vois, jusqu'à la Chine, jusqu'au Japon. Et donc, cette prééminence occidentale, aujourd'hui, au 21e siècle, a les deux pieds trempés dans l'esclavage des 500 dernières années. Mm-hmm. Et ça, on ne peut pas l'extirper de ça. Parce que sinon, c'est encore une vision très eurocentrée de se dire, bon, ben l'Europe, de par son génie, s'est hissée au-dessus des autres comme de nulle part, tu vois? Mm-hmm. Mais quand on analyse, on se rend compte que c'est sur la tête des Africains, des Autochtones, que l'Europe a pu jouer ce rôle dans les derniers siècles. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de brutalité policière, quand on parle de privilèges, quand on parle de tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, on doit automatiquement le ramener à l'histoire des 500 dernières années, depuis Christophe Colomb.
c'est fascinant. Ça permet de mieux comprendre d'où ça vient, ce qui nous amène à maintenant, ce qui nous amène à aujourd'hui, ce qui nous amène aux problématiques du moment, c'est-à-dire en direction d'une guerre civile, j'imagine, aux États-Unis prochainement, si ça continue à escalader à ce rythme-là?
Écoute, je sais pas. Guerre civile, ce que je sais surtout, c'est que les gens qui veulent une guerre civile sont les gens de l'espèce d'extrême droite, qu'on appelle alt-right aussi, qui veulent une deuxième guerre civile. Et ça, c'est des gens racistes, lourdement armés. Je pense pas que ce soit les Afro-Américains à Harlem qui se disent « on veut une autre guerre civile ». Je disais, faut pas oublier que la guerre civile a mis fin à l'esclavage. Tu vois?
Ouais.
Et donc, je pense que les gens qui veulent une guerre civile aux États-Unis sont cette frange qui, entre autres, vote pour Donald Trump.
Ils veulent conserver leurs acquis, leurs droits, leurs privilèges.
Exactement. Et donc, écoute, est-ce que ça se dirige vers une guerre civile ou pas? Je sais pas. Mais je veux dire, tu m'aurais dit il y a 6 mois qu'il y aurait une méga pandémie qui arrêterait le flot de la planète pendant plusieurs mois. Écoute, j'aurais dit, t'es-tu sûr? Et donc, rendu là, écoute, tout est possible.
Puis vas-y.
Non, mais j'allais dire, c'est juste important aussi dans des situations comme ça de départager les gens qui sont là pour une réelle.
Ouais, ouais.
Manifestations, puis des gens qui sont là aussi pour causer du grabuge avec un agenda, tu sais. Puis juste à Québec hier, la manifestation qu'il y a eu était pacifique.
À Montréal?
Ouais, à Montréal. La manifestation qu'il y a eu à Montréal était pacifique, était dans l'ordre, était super bien faite. Puis on dirait que tu vas toujours avoir quelqu'un qui va arriver là pour profiter de la situation, qu'il y a beaucoup de gens dans les rues pour casser quelque chose, pour faire quelque chose. Dans le but peut-être de discréditer le mouvement ou dans le but juste qu'il y ait des gens qui ont une espèce de besoin étrange de casser des choses ou juste de profiter du genre de... Pas de chaos, mais du fait qu'il y a beaucoup de gens dans les rues pour s'imperméabiliser de toute... De toute représailles.
Ouais, écoute, le grabuge, je pense qu'il faut faire attention avant de juger complètement. Tu vois, Martin Luther King, l'icône du pacifisme avec Gandhi. Mm-hmm. Martin Luther King dit les émeutes sont le langage des gens qu'on n'écoute pas.
Mm-hmm.
Ouais. Language of the unheard. Tu vois, si les gens manifestent de manière pacifique à chaque fois, on voit Kaepernick qui met un genou par terre quand c'est l'hymne national.
On a vu ce qui s'est passé.
Ouais, perdu sa job. Tu vois, les gens parlent, admettons, reçoivent un prix et ils prennent position, puis de deux coups, ils se font fustiger. Les gens marchent dans la rue, puis that's it. Fait qu'à un moment donné, on a l'impression que ça nourrit tout simplement le statu quo, tu vois. Et c'est Frederick Douglass, un ancien esclave qui s'est enfui, qui est devenu un leader abolitionniste aux États-Unis, qui disait la rébellion, mais on peut voir ici le grabuge. Il dit, qu'est-ce qui est pire, le grabuge ou les causes du grabuge?
Ouais.
Tu vois? Et donc, souvent, quand on focus trop sur cette question du grabuge, j'ai l'impression qu'encore une fois, on fait passer la propriété avant la vie humaine. Tu vois? Et surtout quand on adresse la situation à propos de personnes qui étaient eux-mêmes traitées comme de la propriété. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui, pendant des siècles, étaient des propriétés. Et là, tout d'un coup, on va dire, bon, ben écoute, la propriété vaut plus que ta vie, tu vois. Et donc, ça, pour moi, le grabuge, je comprends la frustration. C'est-à-dire que c'est symbole d'une frustration amère, tu vois. Et c'est ça.
Tu vois, je la condamne pas, tu sais, puis je la comprends la colère. Puis justement, la manifestation pacifique, elle a été faite. Puis clairement, elle n'a pas eu l'effet escompté non plus. Donc, je la comprends tout à fait. Puis, tu sais, au Québec, on a eu une révolution tranquille, mais c'est vraiment pas toutes les révolutions qui se font tranquillement, tu sais, puis c'est normal. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que parfois, il y a carrément des gens qui sont là pour... Tu sais, j'ai vu des vidéos où il y a des manifestations où il y a carrément des gens de l'extrême droite qui vont là, puis qui poussent les personnes, les Afro-Américains, sur les policiers pour créer des affrontements, tu sais. Fait que...
Oui, ça, écoute, je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui utilisent ces prétextes-là, effectivement, tu sais. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut toujours voir un peu, avoir une certaine distance aussi par rapport à ça.
J'ai vu une vidéo, possiblement que vous l'avez vue, C'est un homme plus âgé, un homme noir plus âgé qui parle à un homme, de, je pense, qui a à peu près une cinquantaine d'années. Après ça, tu as un homme d'une trentaine d'années. Puis les deux s'obstinent, mais vraiment dans un genre de... On sent que les deux ont beaucoup d'émotions, mais qui se respectent malgré tout. Puis la personne, l'homme plus âgé, il prône des actions plus violentes. Puis le plus jeune, il dit, c'est pas comme ça que ça va passer. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire passer notre message. C'est de cette façon-là qu'ils vont discréditer le mouvement. Puis la personne, le gars plus âgé, il dit, les autres façons fonctionnent pas. Il dit, je l'ai fait. Il dit, j'ai déjà eu ton âge. Où est-ce que je disais ça? Puis ça fonctionne pas. Puis le plus jeune a amené, il fait venir un autre gars qui est une génération encore en dessous, qui est comme 12 à 15 ans. Puis il dit, Anne, tu vas te ramasser dans mes souliers à moi. Puis il dit, moi, j'ai une petite fille de 2 ans, puis je veux pas qu'elle ait besoin d'en venir à la violence. Puis là, il crie, puis il dit, faut trouver une autre façon. Mais en faisant ça, sa voix casse, parce que clairement, il y a pas la solution, tu sais. Puis celui plus vieux qui vit ça depuis des années, qui lui a vu ça, a vu des... Comme tu disais tout à l'heure, tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des montées quand il y a eu un événement ciblé, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé. Puis que là, il dit, là, on est rendu, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien qu'on peut faire? Puis j'ai l'impression que c'est ça, là, en ce moment, tu sais.
Oui, puis il ne faut pas oublier que c'est une histoire violente.
Oui.
Je veux dire, c'est une histoire violente. Les États-Unis sont... c'est un pays qui s'est construit dans la violence perpétuelle. Et je veux dire, ce sont des violences qui sont subies aussi. Et tu vois, c'est drôle parce que si on regarde l'histoire... Bon, je reviens toujours à l'histoire.
C'est parfait. Mais c'est la façon de comprendre.
Les gens vont porter au nu la Révolution américaine. Tu vois, quand ils sont libérés violemment du joug britannique, on va mettre sur un piédestal la Révolution française. Des gens qui se sont opposés violemment à la monarchie.
Avec des milliers de morts.
On va célébrer la Révolution haïtienne. Des gens qui se sont battus violemment pour contrer cette violence qui est l'esclavage. Et donc, la violence fait partie de ce cadre-là, mais elle est romantisée. On la trouve cool quand ça fait des siècles, tu vois. Mais quand ça arrive maintenant, c'est plus cool, tu vois. Mais on va célébrer les gens qui l'ont fait avant. Tu sais? Puis même à l'époque de la Révolution américaine, les premiers qui... les premiers échafaudés, comme on pense au massacre de Boston en 1775, je pense, je me souviens plus. Ben, quand on va en parler dans les médias, ben les gens vont dire, bon, vous voyez, c'est une bande de voyous, tu vois, ce sont des casseurs qui veulent aller contre l'ordre établi. Et donc, on a le même discours qu'on a... Ces gens avaient le même discours à l'époque qu'on peut avoir aujourd'hui envers les gens qui le font de manière un peu plus tough, disons.
Ça démontre aussi que l'histoire est toujours racontée avec la lunette, avec l'œil de celui qui la raconte puis qui a gagné, si on veut, son combat. Là,
tout à fait, tout à fait.
Parce qu'une révolution qui serait... qui mourrait dans l'œuf, on dirait justement que c'était des casseurs, des voyous.
Oui,
là,
tout à fait. Puis je veux dire, comme on dit, là, c'est quoi l'expression? On dit le révolutionnaire de un et le terroriste de l'autre. Tu vois, ou le combattant de la liberté de un et le terroriste de l'autre. Tu vois, donc parfois, c'est la même...
La même pièce.
Exactement.
Quand on parle de brutalité policière, de profilage racial, en ce moment, notre regard est tourné vers les États-Unis. Évidemment, on ne vit pas là. Ouais. Évidemment, il n'y a pas de Compton au Québec, à Montréal. Quels sont... Pour deux gars blancs, quels sont les enjeux raciaux ici au Québec actuellement en 2020?
Ben, regarde, on est trois qui avons grandi à Québec.
Ouais. Hein?
Combien de fois tu t'es fait intercepter par la police pour donner ton identité?
0 fois.
Toi?
Jamais.
Bon, ben, je me suis fait intercepter pour vous deux. Ça se compte en plusieurs dizaines. Deux fois.
Ah ouais?
Oh oui, j'exagère même pas, là. J'ai arrêté de compter à un moment donné. Ça m'est déjà arrivé deux fois dans la même journée, trois fois en deux jours.
Pour aucune raison.
Aucune raison. Trois fois en deux jours. C'est-à-dire, il y a une journée que c'est deux fois, le matin et le soir. Le matin en allant travailler. Je m'en vais travailler à 8 heures du matin, je me fais coller. Je sors de chez nous, je me fais coller. Je suis avec des amis, je me fais coller. Je veux dire, c'est une réalité qu'on ne connaît que trop, tu vois. Et je pense qu'on a l'image à l'instant même autour de cette table, tu sais.
Ouais.
Et donc, le profilage racial est une réalité bien vivante à Québec, à Montréal aussi. Je veux dire, le SPVM avait commandé une étude sur le profilage racial qui est sortie l'automne passé. Mm-hmm. Ils n'étaient pas très contents de du résultat.
Ils s'attendaient pas à ça.
Non, ils n'étaient pas très, très contents. Puis je veux dire, je pense même pas que Québec devrait en faire un. Ben ouais, oui, mais... je pense que oui, mais on connaît déjà. Je peux vous l'écrire, ouais. Si vous voulez. Ben, je veux dire, même cet été, il y avait cet homme qui... un homme noir qui a une compagnie qui lavait les restos la nuit. Tu vois, une compagnie ménagère là, de travaux ménagers. Et lui, il se passait de place en place pour gérer ses équipes la nuit, en vélo, dans Saint-Roch. Il se faisait coller pratiquement chaque soir. Qu'est-ce que tu fais là, la nuit? Je travaille, tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Donc, il y a cette manière de nos forces de l'ordre de voir et d'évaluer les gens à travers des lunettes racistes. Qui viennent de ces époques-là. C'est-à-dire que, excusez-moi, de la non-citoyenneté, entre guillemets, du noir. C'est-à-dire que t'es un noir la nuit, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé d'être là. Mm-hmm. T'es dans tel quartier, t'es pas supposé dans tel quartier. Mais si t'es dans ton quartier, qu'est-ce que tu fais là dans ton quartier? Ouais. Tu vois, donc je vais à Cap-Rouge, je me fais coller, mais je vais à Limoilou, je me fais coller. Tu sais? Et donc, pour ma part, c'est la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2016. Ce qui fait pas si
c'est
longtemps.
C'est quand même récent.
C'est récent, tu sais. Puis encore, ça m'arrive moins parce qu'ils me reconnaissent maintenant, tu sais. Mais je le vois qu'ils sont sur le bord, puis ils continuent. Ouais. Des fois, j'envoie la main, tu sais. ils me reconnaissent, fait qu'ils savent très bien, là. Mais je pense aux jeunes qui n'ont pas le privilège que j'ai d'être un peu plus sur la place publique et eux le vivent. Ils le vivent. Puis, je veux dire, on l'a vu, c'est des choses qui arrivent à Repentigny aussi, qui arrivent à Sherbrooke, qui arrivent à Ottawa, qui arrivent à Toronto. Et je veux dire, ça arrive partout. Ça arrive partout. Mm. Puis, on n'a pas encore ouvert le dossier de la France.
Oui, ouais, ça, exact. Exactement.
Je lisais hier, justement, l'article de Radio-Canada sur le rapport dont tu parles, tu sais, qui disait clairement que si t'étais une personne noire, arabe ou autochtone à Montréal, tu avais 4 à 5 fois plus de chances de te faire... de te faire intercepter, tu sais, puis il y avait un petit vidéo avec la réaction du chef de police de Montréal, puis il dit je crois pas qu'il y a des policiers racistes à Montréal, il dit je crois que les policiers sont des citoyens, puis automatiquement les citoyens ont parfois des billets. Puis j'étais comme c'est exactement la même chose. Tu viens de décrire le racisme.
Oui,
tu sais.
Exactement.
On dirait qu'on a tellement peur de ce mot-là, puis on veut tellement pas se faire coller l'étiquette que mm-hmm. non, je suis pas raciste, j'ai juste des billets, mais dude, c'est ça.
Ben, c'est ça le racisme exact. C'est que des fois, tu le fais consciemment, des fois, tu le fais de manière inconsciente.
Ouais.
Je veux dire, les deux existent. C'est, tu peux, t'es un policier, tu peux coller quelqu'un parce que ah, lui, c'est un noir, c'est sûr que.
Ouais.
Ou tu peux le faire sans t'en rendre compte au final, tu sais. Donc, sont je pense qu'on a beaucoup de travail à faire en tant que société. Et pour moi, ce qui est dangereux, c'est toujours de se comparer à.
Ouais.
Tu vois, comme admettons, je veux dire, j'ai donné beaucoup d'entrevues à Choix Radio X. Tu sais, puis à chaque fois, on me disait, oui, mais c'est moins pire à telle place ou c'est moins pire à telle place. Mais ce que je leur disais, c'est que se comparer, finalement, c'est un move de paresseux. Là.
Ouais.
C'est-à-dire, ah, c'est cool ici. Tu sais, c'est moins pire qu'aux États-Unis. Fait que tant mieux, on a réussi.
Donc, on fait rien. T'sais. En quoi ça fait avancer la conversation de parler de ce qui parlons de ce qui se passe ici, puis essayons d'améliorer ce qu'on peut améliorer ici, là, mm-hmm. même ben si oui. C'est pire ailleurs.
Ben exactement. Je veux dire que ça soit pire ou mieux ailleurs, ça ne nous concerne pas.
Ouais.
Ce qu'il faut, c'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on veut que tout le monde ait les mêmes chances? Est-ce qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès au même type d'éducation, au même type d'emploi? Est-ce que quelqu'un qui va apporter son CV ou son nom, c'est Mohamed versus Guy, puis que Guy il risque d'être plus engagé que Mohamed, mm-hmm. mais qui pourtant est autant qualifié ou plus qualifié, dépendamment? Je veux dire, ça demeure un problème. Mm-hmm. Puis que ce soit encore une fois à Montréal, à Québec ou ailleurs au Québec. Et pour moi, et toi, je le disais, cet hiver, pour la commémoration de l'attentat terroriste à la mosquée de Québec,
ouais.
Il y avait une commémoration, et c'est ça que je disais aux gens. J'ai pris la parole, puis je disais, pourquoi est-ce qu'on a si peur de parler de racisme ici? Pourquoi est-ce qu'on a si peur de parler de ces questions-là? Parce que pourtant, on est capable de parler de sexisme. Tu sais, mm-hmm. On va dire, est-ce qu'il y a du sexisme au Québec? Les gens vont dire, ben oui, il y a du sexisme, comme tu sais, ça existe. Mais ça fait pas nécessairement de nous des gens sexistes. On demande, est-ce qu'il y a de l'homophobie au Québec? Bien sûr qu'il y a des gens homophobes, mais est-ce que ça fait de nous des homophobes, les Québécois? Tu vois ce que je veux dire? Mais dès qu'on parle de racisme, on dit, il y a du racisme au Québec, on dit, oh, tu dis que tout le monde est raciste! Ouais. Puis, tu sais? Et donc, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler de racisme? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler d'islamophobie quand ces ismes et phobies-là, on est capable de mettre ça sur la table puis d'en mm-hmm. discuter de manière sérieuse et mature, dire, bon, ben, écoutez, oui, il y a des problèmes, mais comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ces problèmes-là? Mais si on n'est pas capable de nommer le problème, comment est-ce qu'on veut qu'on s'attaque au problème si on le nomme pas? Tu vois? J'ai pas de réponse là,
Matt.
J'ai pas de réponse à...
C'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est en tant que société. Mm-hmm. Tu sais, en ce moment, on voit des balbutiements d'un espèce d'essor médias sociaux d'éveil, j'imagine. Mm. On pourra en parler pour parler de ça, en fait, mais c'est comment... Tu sais, clairement, on a un problème. Clairement, ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, tu vois, déjà, en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que les gens sont écœurés aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste les Noirs qui sont écœurés. Je pense que les Blancs aussi, tout le monde est écœuré de voir ça. Mais comme on disait tantôt, l'essentiel, c'est de l'établir dans le temps.
Ouais.
C'est-à-dire de l'établir de manière soutenue. On est contre. Et quelles sont nos solutions et appliquons-les, mais appliquons de la longévité. Ça ne sert à rien de donner un boost puis de passer à d'autres choses. Mm-hmm. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu ou qui me décourage à l'époque des réseaux sociaux.
Ouais.
C'est-à-dire que ces réseaux sociaux-là ont un côté extrêmement négatif où il y a ce côté positif de mobilisation. Tu peux, ah ouais, on va être là à telle place. Ou, tu sais, il y a moyen de mobiliser, de faire circuler les idées. Mais il y a un moyen d'auto-gratification, d'auto-satisfaction assez bas. C'est-à-dire, mm-hmm. bon, ben écoute, j'ai mis mon post Black Lives Matter exact. Aujourd'hui, ou j'ai mis mon post solidarité à George Floyd. Mm-hmm. Puis,
ça, on le voit en ce moment.
Ouf! Ouais. Comme ça y est, j'ai contribué, tu vois?
Exact.
Ouais. Ben, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tant que l'action se transpose pas sur le terrain où est-ce que les gens vont prendre action, mm-hmm. ça veut rien dire que t'aies posté un truc en support. Là, pour moi, c'est l'équivalent aux États-Unis qu'à chaque fois qu'il y a un massacre de masse, les gens, qu'est-ce qu'ils disent?
Thoughts and prayers.
Thoughts and prayers, tu vois.
Ça fait rien,
pas. Pensez et prières, tu vois. Ouais. Ah, ils sont tués. Pensez et prières. OK, on est good. Tu vois. Et donc, je trouve que c'est ça le grand inconvénient des réseaux sociaux où on a cette autosatisfaction assez facilement. Donc,
ouais.
passer à l'autre chose.
D'avoir fait quelque chose, d'avoir l'impression d'avoir fait quelque exact. Chose. Puis ça nous amène peut-être à parler d'un concept qui a apparu dans les derniers 48, 72 heures, mm-hmm. qui est l'espèce de. En fait, ils appellent ça le white guilt. Fait que de dire aux personnes blanches qui font pas justement de repartager un Black Lives Matter, de repartager Thoughts and Prayers avec George Floyd, ou tu sais, en prenant silence ou en prenant pas parole,
tu
deviens complice à la violence. Mm-hmm. Ça a été un trend qui a été énorme. Ça a fait que tout le monde, pratiquement sur les réseaux sociaux, j'imagine, s'est senti allié en partageant une story sans probablement pousser la réflexion nécessairement plus loin que de faire ça. Puis je pense que ce que tu as dit du niveau de satisfaction personnelle vraiment bas, d'avoir l'impression d'avoir agi parce que tu as fait partie d'un courant puis d'un mouvement, possiblement qu'une fois ayant fait ça, que tu es satisfait de ta propre implication, t'arrêtes ton raisonnement
ouais.
à plus loin que ça.
Oui, tout à fait. Puis Tu vois, moi, je suis pas intéressé par la culpabilité, je m'en fous. Pour moi, ça me change rien. Ce qui m'importe, c'est la responsabilité. Mm-hmm. Tu vois? C'est-à-dire que les gens réalisent qu'ils ont aussi une responsabilité par rapport à ça. C'est une responsabilité qui est commune, des dynamiques qui peuvent ne se régler que collectivement. Tu vois, quand tu parles de le silence, on est complices.
Ouais.
Tu sais, quand on regarde, regardons à plus petite échelle, qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique avec la pédophilie?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on dit? Les prêtres, tout ça, qui ne dénoncent pas, ils sont complices. Tu vois, on regarde la police, on dit ouais, mais c'est pas tous les policiers qui agissent comme ça. Ouais, mais t'as rien fait quand tu l'as vu agir ou tu l'as pas dénoncé. Il y a cette espèce d'esprit de corps qui fait qu'on se tient les coudes quoi qu'il se passe. Tu sais? Et donc, en société, je pense pas nécessairement à cet esprit de corps-là, mais je pense qu'il y a un certain silence complicite où c'est une question qui nous... c'est une question qui nous touche tout le monde. C'est une question qui nous implique. Qui que nous soyons en société, de contribuer à quelque chose de mieux.
Mm-hmm.
Et donc, c'est pas, entre guillemets, les Noirs qui vont régler le problème des Noirs. Tu vois, si on rapporte ça encore, j'utilise beaucoup les exemples de sexisme ou d'homophobie. C'est pas les femmes qui vont régler le problème des femmes. C'est pas les homosexuels qui vont régler le problème des homosexuels. C'est tout le monde en société qui doit changer ses mentalités pour changer la manière dont on voit les femmes.
Mm-hmm.
Tu vois, c'est notre manière de changer nos mentalités face aux enjeux LGBTQ+, au racisme. Et si c'est tout le monde qui doit se sentir concerné pour pouvoir changer. Et c'est comme, parce que je veux dire, c'est tout le monde qui constitue la société. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. C'est tous les éléments doivent mettre la main à la pâte.
Ouais. Mm-hmm. Puis tu voyais, tu sais, on en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Puis moi, justement, depuis ces événements-là, je veux dire, il n'y a pas un moment, tu sais, je veux dire, depuis les derniers jours, ça occupe mon esprit parce que, je veux dire, ces images-là, ils sont horribles. Puis ce qui se passe en ce moment, c'est ultra important. Mais j'avais un certain malaise en allant d'aller tout de suite sur les réseaux sociaux puis de donner mon grain de sel sur la situation, tu sais. Parce que je pense vraiment que ça doit être accompagné d'une profonde réflexion, tu sais.
Mm-hmm.
Parce que, veux pas, si moi j'ai une aussi belle vie, dans un sens, puis on l'a dit depuis tantôt, ça a été construit. Je veux dire, nos privilèges ont été construits sur l'esclavage, puis c'est important de s'en rappeler, puis c'est important de savoir, d'être prêt à concéder peut-être une partie de mes acquis, ou je sais pas exactement quoi faire, mais on dirait que de tout de suite donner mon approbation, évidemment que je suis profondément attristé par ça, mais je trouve ça un petit peu hypocrite d'une certaine manière de juste repartager quelque chose sans qu'il y ait une profonde remise en question.
Écoute, je suis tout à fait d'accord. Puis pour ma part, les réseaux sociaux, ça veut rien dire.
Ouais, exact.
Pour ma part, j'ai rien partagé sur mes réseaux sociaux. La seule chose que j'ai partagée, c'est la manifestation à Québec qui s'en vient 7 juin prochain.
Mm-hmm.
Mais j'ai partagé aucune vidéo, aucune pensée par rapport à ça parce que les réseaux sociaux, j'ai ce sentiment-là aussi que c'est beaucoup, tu sais, on parle de marcher versus parler. Ouais. On dit les gens parlent beaucoup, mais marchent peu. Et donc, pour ma part, les réseaux sociaux, c'est l'équivalent de parler beaucoup, tu vois. Et donc, je respecte le fait que tu t'es dit, est-ce que j'ai besoin de le faire pour... Justement, je me sens la pression de me dire, oh, faut que je le fasse. Je pense qu'il est plus important de réfléchir à où est-ce que tu te situes et qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux contribuer pour changer ces mentalités-là en tant que société, plus que de tout de suite appuyer sur partage et passer à d'autres choses. Là, tu sais.
Mm-hmm. Mais quand je voyais justement certaines personnes poster quelque chose, que tu voyais que c'était pas un repartage, mais une réelle réflexion, mm-hmm. tu sais, un réel texte que la personne ou une vidéo, une prise de parole que quelqu'un fait, je me dis, OK, il y a vraiment une recherche derrière ça, il y a vraiment une réflexion. Là, on dirait que je me dis, ah, il sentait à l'aise. Moi, on dirait que ma pensée n'était pas assez, puis j'avais pas encore trouvé les mots justes pour m'exprimer. Tu sais.
Ouais, ouais.
mais je respecte ceux aussi qui les trouvent et qui le font avec, avec une justesse. Là,
ah oui, je suis tout à fait d'accord. Puis je veux dire, j'ai l'air de parler beaucoup contre les réseaux sociaux, ouais. mais je veux dire, il y a des gens qui l'utilisent à bon escient aussi.
Ouais.
Puis des gens qui l'utilisent pour s'informer, pour informer, pour mobiliser. Donc oui, effectivement, tu sais. Mais il y a beaucoup de paraître aussi, tu sais. Puis on le voit à chaque chose qui prend de l'ampleur. Ben, t'as beaucoup de gens aussi qui vont juste vouloir...
Qui vont se greffer comme... à ça exactement. Parce que c'est trendy.
Ben, exactement, comme rider la vague, là, ouais. t'sais.
Est-ce que la solution passe par la politique?
Oui et non. C'est-à-dire que je pense que la solution ne peut pas se limiter qu'à une des seules sphères. C'est les sphères politiques, économiques, académiques... aussi sociale, communautaire, culturelle, toutes ces sphères-là sont importantes. Tu sais, l'académique, je veux dire, on reprenons notre cas local. Est-ce que vous avez déjà appris en histoire qu'il y avait une présence africaine ici depuis 1629?
Non, jamais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, à la base, notre manière de voir notre histoire est faussée. Mm-hmm. Jamais qu'on a appris qu'il y avait de l'esclavage ici. Jamais qu'on a appris qu'il y a une présence afro-descendante. Depuis l'époque de Champlain, le premier Africain arrive, Champlain est toujours vivant. Mmh. Tu vois? Et d'ailleurs, Olivier Lejeune...
C'est pas qu'on n'a pas parlé de Champlain, là.
Ouais, ben, c'est ça, tu sais.
Puis, tu sais, exemple, quand on parle des Autochtones aussi, tu sais, on apprend, tout le monde se souvient des maisons longues, tout le monde se souvient de certains, mais...
des nomades sédentaires.
Ouais,
mais les pensionnats, on en parle un petit peu moins, tu sais, les côtés plus difficiles de l'histoire, on dirait qu'on n'ose pas trop en parler, tu sais.
Oui, puis encore, comment l'histoire est faite, c'est que les Autochtones sont seulement des figurants de l'aventure européenne ici. Je veux dire, pour la plupart des gens, l'histoire commence en 1608. Avant ça, c'est un flou, tu sais.
Ouais.
Et donc, effectivement, je veux dire, la place des Autochtones. Et de voir l'histoire comme une histoire coloniale. Je veux dire, même encore récemment, je parlais avec des gens, puis je disais, ah, tu sais, il ne faut jamais oublier que la colonisation, c'est un viol. Tu vois? Et ils disent, oui, mais non, mais oui, mais nous ici. Puis je suis comme, non. Non, je demande aux Amérindiens comment ils se sentent par rapport à ça, la colonisation, tu vois. Mais c'est comme si la hiérarchie des ressentis, c'est comme si ça ne valait pas autant qu'eux. Et donc, notre manière d'enseigner l'histoire est très importante. Après ça, on a parlé de l'économie, politique aussi. Je pense que c'est important d'avoir des personnes qui prennent des décisions, avoir plus de personnes racisées aussi dans l'appareil politique, sans que ça soit des tokens aussi, sans que ça soit du bon, regarde. C'est good, on en a un, on est good, merci. Donc, il y a ça aussi, détokeniser la politique, tu vois, que ce soit au niveau des ministères et à tous les niveaux hiérarchiques, en culture, même chose, que ce soit sur les planches, en dehors des planches, devant la caméra, derrière la caméra.
Puis en culture, c'est la première fois que j'entends l'expression « token », mais il y a de la tokenisation aussi. En culture. Là.
Mais comment qu'on la reconnaît, cette tokenisation-là? Dans le sens que, tu sais, nous, aujourd'hui, on t'invite parce qu'on va avoir une réelle discussion avec toi, pas parce qu'on veut prouver à tout le monde qu'on est des bonnes personnes.
Ouais, bien sûr.
Tu comprends?
Oui.
Puis, mais je suis certain que ça existe, mais on dirait que c'est comme avec les réseaux sociaux, tu ne sais pas si le post de la personne est vraiment authentique et accompagné d'une réelle réflexion ou non. Ouais. On dirait que toi est-ce que tu as une manière de différencier ça?
Ben écoute, ça dépend des discours aussi, ça dépend du rôle qu'on donne à la personne. Ça, c'est la personne, on la voit là, mais elle n'a aucun pouvoir. C'est un bon indicateur, tu vois. Si n'est pas en position décisionnelle, mais que souvent, on la voit là, tu sais, c'est dans les discours qui sont portés ou pas portés, les choses qui sont dites ou les choses qui ne sont pas dites, les choses qui sont passées sous silence aussi. Donc, il y a plusieurs manières de le repérer. Tout le monde n'est pas token. Mais écoute, on en voit, on en a, puis c'est facile après ça pour les organisations de dire non, écoute, on est good, tu sais, on a tiqué nos box, là, tu sais.
Ouais. On va prendre une petite pause pour te laisser faire ton entrevue.
Ouais, parfait, on va reprendre ça, merci.
On est revenu.
Je suis curieux, moi, je me posais une question. Tu sais, on parlait tantôt de profilage racial, puis premièrement, tu sais, je citais l'article de Radio-Canada que j'avais lu, puis qui disait premièrement, tu sais, on parlait de représentativité aussi. que, mettons, il y a seulement 10 % des policiers qui sont issus de minorités, là, tu sais, ce qui est vraiment de ça, de, mettons, la vraie représentativité dans la population à Montréal. Donc, c'est sûr que ça engendre des problèmes. Puis, hier, j'écoutais un témoignage de Félix Auger-Aliassime, le joueur de tennis, tu sais, puis racontait juste une anecdote, tu sais, pas du tout anodine, mais tu sais, de quelque chose qui est arrivé à Québec de son père est africain, tu sais, puis qui fait juste se promener bien tranquillement dans son quartier à l'ancienne Lorette, puis il se fait coller par la police, tu sais, puis qu'est-ce que vous faites là, monsieur, puis ben, je m'en vais chez nous, puis je conduis mon auto, tu sais, puis
chez nous, à la maison, là.
Puis la policière lui dit: ah, ben, tu sais, c'est juste, c'est rare de voir des personnes noires dans le quartier ici conduire des Mercedes, tu sais, on n'est pas trop habitué à ça, tu sais, puis. C'est une petite anecdote qui illustre beaucoup, tu sais, que moi, j'aurais, tu sais, un homme blanc qui conduit une Mercedes à l'ancienne Lorette, à Québec, un petit coin tranquille, jamais il va se faire coller juste parce qu'il conduit dans son quartier, tu sais. C'est fou. Puis moi, je me demandais, toi qui as vécu, qui as grandi à Québec, bien, qui as vécu longtemps à Québec, puis maintenant qui est à Montréal, est-ce que... Parce que, tu sais... Il y a différentes sortes de perceptions, Québec versus Montréal. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins pire? Toi, dans ton expérience, est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil partout?
Non, il y a des différences selon les lieux, les quartiers même. Je veux dire, il y a des différences à Québec entre les différents quartiers. Et je pense que parce que tu parlais de représentativité, puis du nombre de policiers issus des dites diversités, entre guillemets, en fait, de personnes racisées. Est-ce que ça change quelque chose? Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait que la police ait plus de personnes racisées à Québec, parce qu'il n'y en a pas.
Il y en a zéro.
Zéro. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré que ça ne changeait pas grand-chose en termes de profilage racial. Okay. Mais moi, j'ai l'impression que ça change quelque chose au niveau de la population. C'est-à-dire qu'une personne, un citoyen lambda, se fait sauver la vie, entre guillemets, par une personne racisée qui est policier, ou qui se fait donner une contravention, ou qui se fait, tu sais, qu'il y a une interaction, parce que l'interaction qu'on a avec la police, c'est une interaction qu'on a avec la société, le bras armé de la société. Et donc, que, admettons, à Québec, ce bras armé-là soit tout blanc, parle en soi, tu vois. Mais si des jeunes peuvent se voir à la police, si des personnes blanches peuvent voir des personnes racisées dans la police, ça permet d'avoir une vision différente de l'autre, entre guillemets, tu sais. Et donc, je pense que c'est important qu'il y en ait. Est-ce que ça va régler le profilage racial? Je pense pas. Mais au moins, ça pourra contribuer. Et tu vois, comme la policière qui arrête le monsieur parce qu'il est en merco, ben, d'avoir un collègue noir, ben déjà, ça va peut-être l'éduquer un peu.
C'est ça, j'aurais pensé que justement, c'était des collègues, des confrères, consoeurs de différentes cultures. C'est une première étape à te rendre compte que c'est des gens comme d'autres, là, je veux dire, puis qui sont pas...
Exact.
Il n'y a aucune différence, là, finalement.
Tout à fait.
Il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu racontais ton anecdote, hein. Way back, j'étais encore chez mes parents à Québec, puis j'avais une copine qui habitait en Limoilou. Puis j'avais emprunté la Cadillac de ma mère pour aller attendre ma blonde, en fait. J'attendais qu'elle arrive, fait que j'étais parqué dans une rue à Limoilou. Puis je me rappelle, il y a un policier qui est venu, ce que j'ai répondu tantôt, c'était pas exact, parce que oui, ça m'est arrivé une fois de me faire intercepter par un policier pour aucune raison. Puis un policier qui est venu me voir, puis... J'étais dans une Cadillac qui était arrêtée, les lumières roulaient encore en plein milieu dans Limoilou. Fait que il vient me voir, puis là, il cogne à la porte, puis là, il dit: qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai regardé, j'ai fait: j'attends ma blonde. Il m'a regardé la maison en avant, où est-ce qu'il y avait, j'ai comme pointé, là, une chambre illuminée. Il m'a regardé, il a fait: sont tout le temps lentes, hein? Puis il est parti, tu sais, puis là, j'ai fait crème, genre, il m'a vu, il a fait: ah! Pas de problème là, un blanc, ça va.
Un petit cas sexisme, ouais. Sexiste en dessous.
Ouais, c'est en plus. Puis c'était en quelle année ça?
2012.
OK.
2012,
ouais. Ben, tu vois, moi j'avais un ami, ça fait un peu plus longtemps que ça, il était chez eux, dans Limoilou, chez sa mère, dans le parking, en train de changer la plaque de sa voiture qu'il venait d'acheter. Je pense que c'est un caddie aussi, Cadillac. Change la plaque, la police est arrivée avec les guns sortis. Juste pour te
mettre... Avec les guns sortis.
Il est chez eux. est en train de changer la plaque de sa voiture tranquillement chez eux. Sont arrivés les guns sortis.
Ouais, juste pour montrer le deux poids, deux mesures. Là. Le gars, il avait même pas, sûrement même pas une pensée d'avoir son arme avec lui, là, tu sais, quand il est venu m'intercepter, moi.
Ah ouais, mais non, c'est ça. Écoute, ouais. Oui, comme tu dis, deux poids, deux mesures. Donc, t'as été presque profilé.
Presque. j'ai vu aussi, puis ça nous amènera à parler de l'aspect de ta vie musicale. J'ai vu une personne qui a partagé un tweet dernièrement qui disait « Faudrait vraiment que les Américains commencent à... » puis là, il parlait de l'Amérique du Nord globalement. « Faudrait vraiment que les Américains commencent à aimer les Noirs comme ils aiment la culture noire.
Mm-hmm. » Ouais.
Puis, tu sais, la culture noire, c'est massif. Mm-hmm. C'est la musique, mettons, le rap, le hip-hop, mm-hmm. c'est la chose qui est le plus écoutée mondialement en ce moment.
Mais ouais, tu sais, l'influence de la musique noire, tu sais, c'est plus que le hip-hop. Tu sais, le blues qui a donné naissance au rock, tout mm-hmm. ça, je veux dire, on n'aurait pas eu de groupe rock, on n'aurait pas eu de... Toute la musique qu'on écoute, toute la culture qu'on consomme est tellement influencée de la culture noire que ça... qui est omniprésent. Là,
oui, puis tu vois, même dans les années, je pense que c'est les années 50, quand le rock commence, y a des Noirs déjà qui faisaient du rock.
Exact.
Mais ça a pris un Elvis pour prendre les codes noirs pour ensuite les amener vers les Blancs. Puis là, où est-ce que, OK, ouf, là, ça va.
Là, c'est le King. Mais le King est arrivé après ben du monde. Là.
Ben, exactement. T'sais. Donc, oui, effectivement, c'est des éléments culturelles qui ont façonné le 20e siècle, le 21e siècle, mais qui connaît mieux que ceux qui l'ont fait restent un peu plus loin. Mm-hmm. J'étais en tournée aux États-Unis il y a une couple d'années, il y a 10 ans. Une dizaine d'années, j'étais en tournée aux États-Unis, j'étais au Maine. Si je ne me trompe pas, j'étais à l'Université du Maine. Puis j'ai un de mes amis qui m'accompagnait. Puis, il parlait avec un monsieur là-bas. Puis le monsieur, il dit... Parce que mon ami aime beaucoup le basket, tu vois. Fait qu'il parlait de basket. Puis le monsieur, il dit, j'aime beaucoup le basket, mais il y a trop de noirs. Mmh. Tu vois? Donc, t'as envie de regarder ce dans quoi il y a beaucoup, beaucoup de noirs, mais avec moins de noirs.
Mais tu trouves qu'il y en a un petit peu trop.
Mais c'est ça. Mais même pourquoi?
Ouais.
Et je vous jure, je pensais à ça il y a quelques jours. C'est comme c'est venu dans ma tête. Puis je suis comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange de voir des gens avec un peu plus de mélanine courir après un ballon?
Ouais. c'est quoi le problème?
Ben, exactement. Donc, je trouve ça fou. Puis d'un point de vue culturel, même chose. T'sais. Puis j'ai envie de glisser momentanément vers le hip-hop ici.
Ouais. Ouais.
Comment le hip-hop... J'ai commencé à faire du rap en 1995.
Mm-hmm.
Tu vois? Je suis un des premiers à Québec. Et si tu prends au début des années 2000, la plupart des personnes que tu voyais qui étaient commercialisées étaient des personnes noires, sans pression, mosaïque, ouais. Yvon Crevé, un étrange, etc. Mais aujourd'hui, regardons qui passe à la radio, qui est commercialisé, tu vois?
Mm-hmm.
Et il n'y a pas une personne noire ou racisée, mm-hmm. c'est toutes des personnes blanches. Et c'est des personnes que, soit dit en passant, que je dis toujours, que je respecte, parce que c'est des amis. Je pense à Coria, je pense à la classe. J'ai mal de respect pour la classe, c'est family. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des gens que je considère comme famille. Mais c'est des discussions que j'ai avec eux. Je dis, mais vous trouvez pas ça fucked up? Qu'on parle d'une culture noire, parce que l'hip-hop est une culture noire, mais qu'aujourd'hui, le public est exposé qu'à une partie où ce sont des personnes blanches qui le font.
Ouais.
Puis je veux dire, ce que je suis pas en train de dire, c'est que seulement les Noirs peuvent faire du rap.
Ouais.
Les Blancs peuvent rapper aussi. Regardez les Limoilou Stars, mon groupe. La moitié était blanche, la moitié était noire. La mm-hmm. question n'est pas si les Blancs peuvent faire du rap. La question, c'est pourquoi? Est-ce que le succès commercial en ce moment au Québec, au 21e siècle, en 2020, n'est qu'un succès commercial avec des rappeurs blancs.
Mm-hmm.
Et je ne parle pas d'un succès de rue, admettons, underground, où on a des rappeurs noirs qui ont beaucoup de succès underground.
Ouais, ouais. Exact.
Mais qui passe à c'est quoi? Qui passe dans les grandes radios? Qui est invité dans les grandes émissions télé? Et ça, pour moi, c'est un grand mystère.
C'est ici, on a un podcasteur au studio qui s'appelle Adamo, qui fait un podcast qui s'appelle Le temps d'un jujube. Donc, mm-hmm. il prend un jujube au THC puis il discute avec des gens principalement de la scène hip-hop. Puis, il a reçu des rappeurs street, plus underground.
Ouais.
Puis, des gens, des gars que j'avais jamais entendu parler. Puis Adamo disait, hey, genre, j'en reviens pas, on vient de booker EZS. Puis là, moi, je fais, c'est qui? EZS. Moi, je suis pas le rap underground, je suis pas le rap de la rue, j'ai aucune idée, c'est qui EZS. Puis là, tu vas voir sur ses chaînes, puis sur son YouTube ou sur Spotify, puis son nombre de streaming, puis c'est massif. Des millions et des millions d'écoutes. Exact. Plus d'écoutes que possiblement Corias. Puis j'en ai jamais entendu parler.
Exact.
Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai capoté. Je comprenais pas pourquoi. Même chose, c'est comment il s'appelle l'autre? Je pense qu'il est de descendance arabe, à moins que je me trompe.
Enima.
Il y a Enima, mais il y a aussi, il est plus petit, là. White B, je ne sais pas c'est quoi sa descendance. Mais moi, quand j'ai réalisé ça, qu'il y avait des gars qui avaient des followings énormes, qui faisaient de la musique incroyable, qui étaient nulle part. Nulle part.
Oui, c'est à deux poids, deux mesures. Je pense que ici on a une lecture double. C'est-à-dire que je pense qu'il y a immanquablement une lecture dite « raciale », entre guillemets. J'utilise « guillemets » parce qu'on sait la race, c'est un concept, hein, c'est une construction sociale, mais c'est un mot que...
avec lequel on est obligé de jouer avec.
Exactement, parce qu'il a été construit, le mot est construit, il est là, mais il est important toujours de se rappeler que c'est une invention qui date de pas si longtemps. Hein. Bon, je fais le détour historique, mais le concept de race est né dans les années 1700. Tu vois, avant 1700, les gens ne parlaient pas en termes de race. C'est seulement avec les années 1700, puis la classification des plantes et des animaux et des humains, couplée avec l'esclavage, où est-ce qu'on a divisé en race et hiérarchisé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour faire cette lecture-là, il y a cette question dite raciale, mais il y a aussi une question sociale, une question de classe, une lecture de classe à faire, parce que ce sont des gens qui viennent de segments de la population qui n'est pas représenté à la radio, à la télé. C'est le segment de la population qu'on ne veut pas voir, qui est, entre gros guillemets, les bas-fonds. Tu vois, passons à Soulja. Tu vois, Soulja qui a un succès énorme aussi, mais qu'on voit rarement dans ces réseaux-là. Parce que je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de Limoilou, tu sais, comme qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler de Saint-Michel ou de Saint-Léonard ou de XY. Donc, le Québec s'est façonné une identité culturelle dans laquelle il n'y a pas de place pour des gens issus de ces milieux-là. C'est ce que je pense.
Puis penses-tu qu'inconsciemment, le grand public québécois, majoritairement blanc, a plus de misère à s'identifier puis à se reconnaître dans justement des rappeurs qui leur ressemblent moins ou qui parlent de réalité, qui leur parlent moins?
Tout à fait, ça c'est sûr. Je pense que les gens le ressentent moins, s'identifient moins. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir de place.
Bien, absolument
pas.
Dans
un point de vue de rotation, tu vois.
Je pense que c'est important que tout le monde aussi ait accès à ça pour savoir que ces réalités-là, ces personnes-là existent, ont quelque chose à dire et sont pertinents. Là, tu sais.
Oui, puis qui amène un message aussi d'une différence de mode de vie. C'est-à-dire que c'est une vie qui est complètement différente, mais ici même, dans la province, dans la ville. Tu sais. Puis je dirais, il y a une chose que je trouve tellement insultante, c'est le directeur de C'est quoi, dont je connais pas le nom, qui à un moment donné, il était à... Tout le monde en parle. Puis il dit, bon, c'est quand j'ai commencé à écouter Loud que j'ai commencé à comprendre ou à aimer le rap. Tu vois, comme avant ça, je comprenais rien à rien. Puis là, Loud est arrivé, puis tout d'un coup, je comprenais. Tu vois, c'est comme si c'était tellement insultant pour tout le reste. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si tout le monde marmonnait aussi, là.
Ben non, mais pas exactement. C'est juste que possiblement Cloud rappait sur des affaires qui lui pouvait comprendre ou se reconnaître. Tu sais. Une genre de classe moyenne blanche québécoise.
Ouais, oh ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que de ce point de vue-là, puis c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, je parle il y a 20 ans, là. Il y a 20 ans, je disais toujours, ah, le jour où le rap sera accepté socialement, il y aura plus de représentativité dans nos médias. Ça me fait rire à chaque fois que je pense à ça. Je dis, waouh, j'ai une grande naïveté.
C'est drôle comment la culture qui émane de Montréal, francophone du moins, là, ressemble plus à, exemple, Québec que Montréal, finalement. Tu sais, quand tu regardes les médias, quand tu écoutes les émissions de télévision, ça ressemble plus à un quotidien de pas de région, mais de Québec, plus blanc, tout ça. Tandis qu'à Montréal, on se rend compte que justement la réalité puis les différences, c'est vraiment différente, puis vraiment plus présent, tout autre que ce qui est dans les médias.
Ben, écoute, le meilleur exemple, c'est il y a 3 ans, pour fêter les 350 ans de Montréal. Je sais même plus, c'est les... il y avait la fête de Montréal, 350, 375, je me souviens plus. 375.
Ouais.
Et la première annonce qu'ils ont fait, ça fait controverse, parce que les seules personnes que tu voyais dans l'annonce, c'était des personnes blanches, pour parler de Montréal.
Mm-hmm.
Puis c'est exactement ce que je disais à l'époque. Je dis ça, tu sais, c'est quelque chose qui aurait pu être fait à Québec, admettons.
Mm-hmm. Ouais.
Mais que ça soit fait à Montréal, c'est comme, mais vous foutez de la gueule de qui en ce moment, là, tu sais? Et ça, je trouve que ça a exposé, justement, ce manque de pensée quant à cette dite diversité, entre guillemets, tu vois? Et ce manque de présence de cette dite diversité dans les organes décisionnels. Parce que à l'époque, c'était, je pense, Gilbert Rozon qui dirigeait le 375e. Puis il dit, écoutez, je l'ai vu, puis je me suis jamais rendu compte de ça. Tu vois, en sortant dans la controverse, il fait son meilleur culpa. Et comme, je l'ai vu, puis je m'en suis jamais rendu compte pour vous dire comment c'est ancré en nous, tu vois. Ouais.
Comment on se rend pas compte que l'image est frappante quand, mettons, t'as une chanteuse blanche tirée par un char... tiré par des personnes noires, des choses comme ça que on le voit pas si on comprend pas la problématique. Là,
non, exactement. Puis je veux dire, c'est tellement ancré. Je veux dire, c'est même comme slave, c'est la même chose.
Ouais.
C'est exactement le même contexte. Hein? Donc il y a un manque de littératie racisée. Ici, c'est-à-dire que les gens ont de la difficulté à lire ces différences-là, la difficulté à lire l'impact de leurs actions, de leurs décisions aussi.
Ouais, puis c'est rétroactivement qu'on s'en rend compte.
Mm-hmm. Exact, c'est toujours après.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais.
Exactement, puis tu sais, il y a aussi pas le danger, mais ce qui s'est passé, par exemple, avec Justin Trudeau puis le blackface, de juger avec un œil d'aujourd'hui des actions du passé.
Mm.
Ça c'est aussi une problématique qui est nuancée parce qu'à l'époque, probablement d'une action, où est-ce qu'il n'y avait pas la conscience sociale autour de cette action-là, même si l'action était de notre œil aujourd'hui,
Pas socialement acceptable
ou nuisible à une cause X ou Y, à l'époque, ça ne l'était pas nécessairement. T'sais.
Oui, puis encore, je veux dire, souvent, on va prendre cet argument-là pour l'esclavage, admettons. Mm-hmm. On va dire non, mais dans l'esclavage, tout le monde faisait ça à l'époque. Mais c'est pas vrai, il y a des gens qui étaient contre l'esclavage l'esclavage.
Ouais, c'est ça l'affaire.
Et donc, mais c'était des gens qui étaient perçus comme des hurluberlus, qui étaient perçus comme des extrémistes. Et donc, à chaque époque, il y a toujours des gens. Qui sont contre le mouvement général, mais qui sont des minorités, tu sais. Et donc, effectivement, je veux dire, il y a 20 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Espérons que Trudeau a fait du chemin. En tout cas, il a été forcé de faire du chemin.
Oui, d'un dernier moment.
Exactement, tu sais. Mais voilà, je pense que c'est ce que c'est. Les choses changent, puis on doit apprendre de ces changements-là aussi.
Mm-hmm. Dans le temps qui nous reste, avant que tu doives quitter, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Si les gens qui ont écouté cette conversation-là veulent entendre plus de toi, veulent... soit consommer ton art ou t'écouter en conférence ou qu'est-ce qui je sais que là il y a beaucoup de choses qui sont modifiées avec la COVID, avec la situation actuelle, mais si les gens veulent t'écouter plus, te suivre.
Il y a mon site internet, websterls.com, websterls sur Instagram et Facebook, où je partage mes différents projets. J'ai sorti un EP avec un groupe de jazz qui s'appelle 5-4 Trio en avril passé. Un projet sur lequel je travaille depuis quelques années avec eux. On a sorti un album ensemble l'année passée. On sortait un EP, donc on avait quelques concerts d'alignés là, cet été qui malheureusement ont été annulés. Donc c'est un projet hybride jazz, hip-hop, et eux ils font une espèce de jazz un peu prog-rock. Là, je regarde parce que ce sont des amis, anciens collègues. Ouais. Donc c'est un projet complètement différent que ce que j'ai pu faire dans les dernières années. Sinon, j'ai sorti des livres aussi l'année passée, un manuel d'écriture hip-hop qui s'appelle « À l'ombre des feuilles », toujours en librairie.
Manuel d'écriture hip-hop?
Oui, exact.
Très cool.
Donc, c'est pour enseigner en fait l'art de l'écriture hip-hop avec de l'analyse de texte aussi. Puis un côté biographique, je raconte mon parcours. J'ai sorti l'année passée un livre jeunesse à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave ici. Donc, si vous avez envie d'écouter de la musique, il y a ça. Si vous avez envie de lire, il y a ça. Vous avez des enfants, il y a ça. Mais le livre jeunesse, c'est un livre que pour les adultes aussi. C'est-à-dire que vous pourriez le prendre, le lire aussi, trouver quelque chose. C'est juste que c'est sous le couvert de livre jeunesse. Donc, les gens peuvent suivre sur les différents réseaux. Éventuellement, il y aura des concerts. Les conférences vont revenir aussi. Il y a mes tours guidés qui devraient recommencer cet été. Les tours Québec historiques où on fait le vieux Québec et on voit l'histoire de la présence noire de l'esclavage à Québec.
Est-ce qu'il y a encore des traces visibles de
ça? Oui et non. C'est-à-dire que les lieux existent, mais il n'y a pas nécessairement de traces. C'est-à-dire qu'il y a quelques bâtiments, il y a quelques lieux où on peut parler de cette histoire-là parce qu'elle a lieu sur la place même, mais il n'y a pas de vestiges précis en lien avec cette histoire-là, malheureusement.
Ça me semble vraiment intéressant à faire ce tour-là.
Vous viendrez là.
Tout à fait, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui.
Mais écoute, merci vraiment d'être venu aujourd'hui et d'avoir étalé tes connaissances. Puis on espère sincèrement que ce qui se passe en ce moment puis ce qui s'est passé, ça ne sera pas en vain puis qu'il va y avoir des profonds changements qui vont s'opérer dans nos sociétés. Puis on travaille tous dans cette direction-là.
Tout à fait. Merci de votre invitation. C'est vraiment apprécié. Puis je vous souhaite bonne vie, longue vie dans ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Merci, Webster.
Merci.